gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
C'est dimanche, 22h, c'est la causerie, comme presque tous les dimanches sur Radio Canu. Vous nous écoutez soit au 102.2, soit sur radiocanu.org et on est bien content que vous soyez là. Ce soir, autour de la table, dans le studio et un peu partout dans l'univers, il y a Stan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara.
Bonsoir.
Et Clara, d'abord, juste avant de présenter Fab, Clara qui nous a lancé le générique à 22h, pile pétante, c'était magnifique, c'était beau.
Voilà.
Et nous avons donc Fab.
Ouais, salut. Voilà. Mais oui, car nous ne sommes que des petites poussières d'étoiles dans cet univers. Et continuons donc, pour si tu as envie, toi, de l'autre côté, de nous écrire. Et tu te dis, tiens, si je leur écrivais. Eh bien, il faut le faire
à la causerie canu, tout attaché, lacausericanu@gmail.com.
Voilà, c'est la meilleure façon de nous parler. Si tu as envie de réécouter les émissions, ou de les podcaster, ou de te mettre en flux RSS, ou de faire tout ce qui est possible et imaginable avec un blog, eh bien, tu vas à...
blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/... Je la ferai pas. La causerie. Je redonne blogs.radiocanu.org/la causerie.
Ou sur les blogs des émissions sur radiocanu.org.
Évidemment, on a aussi un espace sur un des réseaux sociaux ou asociaux, je ne sais même plus ce que c'est, ces trucs-là. Et vous trouverez la causerie Canu, on y est aussi, mais on partage effectivement que les émissions.
Voilà.
Donc, mais si vous voulez vraiment nous causer, etc., passer par les mails ou par le blog de l'émission, ce sera bien mieux.
Et si vous voulez nous faire connaître, partagez.
C'est ça.
Non, mais autour d'une raclette, par exemple.
Ah, je vais venir ce soir. C'est génial.
Je connais une super émission et tout. Ouais. Bien, allez, démarrons cette émission avec quelque chose de pas forcément très très drôle, Jean-Yves, mais qui quand même nous a interpellé, enfin t'as interpellé en particulier cette semaine, des gens qui font du bateau, mais pas pour des raisons estivales.
C'est ça. Alors, ce soir, je vais vous parler de, entre guillemets, Defend Europe. Hein, un projet des identitaires européens lancé au mois de mai dernier et qui a effectivement malheureusement, qui en tout cas malheureusement est devenu une réalité. Alors avant de continuer sur exactement ce que c'est leur superbe projet morbide, on va commencer par rappeler qui ils sont, ces identitaires, parce qu'il y en a plein de genres, hein, des identitaires. En tout cas, eux, c'est un mouvement qui est né en France en 2002, qui se développe depuis quelques années dans d'autres pays européens, et on le verra bien que ce projet est donc un projet européen. qu'ils et elles sont des partisans de ce qu'ils appellent, entre guillemets, le choc des civilisations, ou encore, entre guillemets encore, hein, le grand remplacement. Voilà. Oui, on va être remplacés, à ce qu'ils disent. Ils sont aussi défendeurs de, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, de l'identité européenne. Effectivement, je pense bien qu'entre une région polonaise et un breton du Nord, je pense qu'effectivement il y a un sacré lien de culture européenne. Enfin, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire tout ça.
Le bignou, peut-être.
Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Hein. En fait, c'est juste une OPA. Le Front National était dans ses petites frontières. Là, les identitaires européens, finalement, ils veulent se raccrocher à un truc qui serait plus grand. Mais bah, toujours avec la même base.
C'est un peu ce qu'on appelle la, aux États-Unis la nouvelle droite ou la droite alternative, enfin la nouvelle extrême droite en fait.
Quoi. C'est ça.
C'est le renouveau de l'extrême droite. Quoi.
C'est ça. Ces identitaires aussi ont un amour de la religion chrétienne. Hein. Bon, ils la contrebalancent par une haine incroyable de l'islam. Alors, eux, ils disent de l'islamisme. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, c'est sûrement pour ça qu'ils occupent des toits de mosquées, qui ne sont absolument pas islamistes ou un courant fort. Enfin, c'est juste des fachos, en fait, hein, d'une extrême droite. Donc, ils sont aussi contre le métissage extra-européen. Eh oui, vous imaginez bien. Ils ont aussi toujours un petit côté complotiste. Hein. Ça va souvent quand même avec l'extrême droite, quelle qu'elle soit. Il y a toujours un peu un truc, ça s'organise contre nous. Oui, bien sûr, les gars. ils organisent aussi des actions coup de poing. Ils avaient fait des brigades anti-racailles. Je reprends encore une fois leurs mots. Hein.
À Lyon et à Lille.
À Lyon et à Lille, ouais. C'est ce que je me suis dit. J'ai retrouvé Lyon, Lille, mais j'avais pas retrouvé Lyon.
Bah,
mais
Lyon,
je...
ils avaient été arrêtés avant et Lille.
Ils avaient fait aussi. Alors, ouais. Pour dire ce que ça a fait pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, les brigades anti-racailles. En fait, ils faisaient des milices dans le métro. Voilà, en disant attention, les gens qui se comportent pas bien.
Bon, on les tabasse, mais c'était pas dit comme ça.
Non, c'est pas dit comme ça, jamais. C'est le double langage, n'oublions jamais. Bref, donc c'est un groupuscule d'extrême droite, hein, comme les autres, avec leur thème à eux, un petit peu plus que les autres, leur double langage, c'est ce qu'on venait de démontrer, leur mode d'action et leur imagerie. Les identitaires ont un peu innové là-dedans, ils sont un peu éloignés des trucs franco-français, etc. Ils sont vraiment dans quelque chose de neuf.
Qu'ils essayent de faire neuf.
Qu'ils essayent de faire neuf. Les idées restent toujours du siècle.
Par contre, tu parlais du grand remplacement, donc ça veut dire qu'ils sont assez proches des mouvements comme de l'auteur qui s'appelle Camus. Et donc, je suppose qu'il y a un tout petit peu d'antisémitisme qui se trouve.
Renaud Camus.
Oui, Renaud Camus. Oui,
oui.
Oui,
oui, oui pas... non,
mais c'est vrai que dit comme ça, c'était bizarre.
Non, mais parce que Renaud Camus. Surtout aussi parce qu'il y a un Jean-Yves Camus qui est un journaliste et là qui bosse aussi pour Charlie Hebdo, mais qui travaille contre les extrêmes droites.
C'est ça, c'est donc pas le même.
Je trouve que la nuance est très importante. Hein,
mais ce qui est, donc, je suppose qu'il y a un petit peu d'antisémitisme saupoudré de la droite à gauche. Quand
alors,
même.
Certains disent qu'il l'efface un petit peu.
Ah.
Bon, je pense que ça reste toujours un peu ces trucs en arrière-cour. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de cet antisémitisme hein, que toutes les extrêmes droites, quand même, aiment beaucoup. Donc voilà, et je voulais rajouter aussi que pour une des têtes pensantes des identitaires allemands, hein, qui s'appelle Markus Willinger, lui, il se désole également de l'acceptation croissante des personnes LGBT. Hein. Bah ouais, si tu mérites.
Ah bah oui.
C'est le grand remplacement, t'imagines bien. Et donc, lui, il souhaite un retour au rôle traditionnel de genre, évidemment, avec des formules, je le cite entre guillemets, les femmes veulent être conquises.
Ah, il
voilà.
Est
oui, non, ils aiment bien enfin, le bonhomme, les femmes, enfin, tout ça. Tout est très bien réglé chez les identitaires. Donc, voilà, après cette présentation, on peut revenir à leur projet. Alors, c'est quoi ce projet ? Donc, ce sont des identitaires français, autrichiens et italiens, bah, qui veulent mettre un bateau à la mer, et qui sont arrivés, pour empêcher les associations humanitaires de sauver des vies humaines. On peut, avant de continuer, se rappeler que déjà, en ce début d'année, enfin, cette mi-année 2017, on est à environ 2000 personnes qui sont déjà mortes en Méditerranée. Et en 2016, on était à 5000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Donc voilà. Et donc, les identitaires, eux, officiellement, ils veulent, vous l'aurez bien compris, défendre l'Europe. Voilà.
Okay. Alors, du coup, ils font quoi ? Ils coulent des bateaux ?
Ben,
ils tirent sur des gens parce que...
Alors attendez, je vais vous donner leur version officielle à eux.
D'accord.
Eux, ils disent... C'est pour, je cite encore une fois, attention, hein, c'est la complicité des ONG, donc celles qui sauvent des gens, avec les passeurs, et que donc ces ONG feraient du trafic d'êtres humains. Évidemment.
Ah, c'est pas mal comme truc complotiste, ça.
C'est ça.
Ouais, c'est bien.
J'aime bien la formule. Voilà, on pourrait presque y croire, en fait.
Vous voyez, complotiste.
Bah, c'est le principe d'un truc comme ça, c'est que tu balances une énormité, et si tu réfléchis pas, tu pourrais presque te dire, ah bah, mais en fait, non. Hein, mais...
Et évidemment, donc. Défendre l'Europe contre l'immigration.
Donc, c'est l'idée que les gens, donc, si je comprends, les ONG seraient de mèche avec les passeurs pour faciliter le grand remplacement en Europe en faisant venir des gens à travers la Méditerranée.
Oui, tout à fait.
Ils vont bien,
ils vont formidablement bien. donc, alors, quand je vous parle de défendre, enfin, quand ils parlent de défendre l'Europe contre l'immigration, alors. Je vais vous expliquer en détail un petit peu quand même leur projet, c'est éloigner les migrants des côtes européennes. Comment ? Bon bah facile en fait, ça, c'est dès qu'ils vont voir des migrants et des migrantes, et ben ils vont prévenir les gardes-côtes libyens.
Ah, les Libyens
Oui, avec qui les identitaires ont clairement dit qu'ils veulent travailler avec les gardes-côtes libyens, évidemment, pour ramener les migrants sur les côtes libyennes. Le reste, on s'en fout. Hein. Est-ce qu'ils iront bien? Est-ce qu'ils seront... Non, on s'en fout. Enfin, ils s'en foutent, en tout cas, eux. Ils ont aussi évoqué la possibilité de détruire des bateaux vides.
Hein. J'aime beaucoup la notion de vide. Parce que, alors, je vais être cynique, mais comment tu prouves que quelqu'un s'est noyé autrement que quand t'as fait couler son bateau? Enfin, tu vois, je veux dire, un bateau vide, ça veut rien dire. C'est,
Vide de...
Oui, enfin, vide de quoi?
Ouais, il n'est pas un capitaine. Enfin, t'as le bateau, il y a un mec comme ça, mais. Si. Ils vont pas trouver un bateau sur l'eau tout seul au milieu.
Oui, c'est ça. C'est... Ouais. C'est le double langage dont tu parlais. Quoi.
C'est un peu ça. C'est toujours très tendancieux. Tu vois, on ne sait jamais. Tu vois. Mais eux, évidemment, ils ne sont pas du tout là pour ça. Hein. Ils font juste du contrôle, etc. Hein. Rien d'autre. Donc, évidemment, et tout ça, c'est évidemment parce qu'ils sont toujours avant tout très humanistes, ces identitaires. C'est pour éviter que les migrants meurent. Voilà.
Et c'est fait sans violence.
Mais bien évidemment.
Mais ils se foutraient.
J'ai eu peur.
Le jour où l'extrême droite était violente, ça se saurait.
Ils se foutraient pas un tout petit peu de notre gueule?
Si, non, c'est vrai, mais je crois que tout le monde n'en est pas vraiment conscient. Donc voilà, et alors je vais continuer quand même, parce que pour leur projet dégueulasse, quand même, hein, il faut savoir comment ils ont agi. C'est, ils ont lancé, donc en mai, c'est ce que je vous disais au début, un appel aux dons, j'ai appelé ça comme ça en tout cas, et ils ont récolté plus de 130 000 euros. En deux mois.
C'est ça qui est inquiétant, en fait. Parce que moi, je trouve... Alors, attention, le reste est très inquiétant aussi. Mais ce que je trouve fou, c'est que leur projet, qui, à mon avis, il y a quelques années, n'aurait jamais pu se mettre sur pied, aujourd'hui, ils arrivent à lever 130 000 euros en deux mois pour finalement récupérer un bateau et aller faire... Bah oui, on fait finalement faire de la milice en pleine
c'est
mer,
ça.
Quoi.
C'est ouais. ça. C'est ça. Et puis, je reprenais ça dans un autre truc, c'est je me souvenais de Canu, en fait. Canu, quand on a fait notre appel à don, en fait, on a ramassé 50 000 balles en un an.
Oui, c'est ça.
Eux, ils ont 130 000 balles en deux mois, quand même. Hein. Mmh. Donc, là aussi, on voit où il y a le pognon et en tout cas, les motiver. Hein. Bref, et alors, ce que je voulais rajouter aussi, ce que je l'ai découvert un peu en faisant les recherches, c'est que ces identitaires, au mois de mai, avant de lancer leur truc, là, ils avaient déjà tenté de bloquer un bateau, en fait, dans un port en Italie. Et ils n'y étaient pas arrivés, là, les flics étaient arrivés à les en empêcher, mais voilà, ça fait quand même quelques mois qu'ils visent clairement les assos et les ONG, en fait, qui aident les migrants à ne pas crever dans la Méditerranée. Donc voilà, donc leur bateau est parti de Djibouti, hein, parce que ça c'est tout réglé. Hein. Ils ont emprunté le canal de Suez. Alors là, quand vous cherchez un peu les infos, c'est très compliqué. Les identitaires, eux, disent ils sont passés, ils ont eu des petits soucis, mais pas plus que ça, ils sont passés. À côté de ça, il y a une asso, alors je crois qu'elle est anglaise, c'est Hope Not Hate, donc espoir, pas de haine. Eux disent, en fait, ils ont interrogé des gens qui travaillent dans les services égyptiens au canal de Suez, et eux auraient déclaré qu'en fait, le bateau a été arrêté parce que il manquait des papiers, il y a des gens, on ne savait pas qui ils étaient, etc. Donc il manquait beaucoup de paperasse et que ça passait pas. Là, on est vraiment, encore une fois, dans de l'information et des informations, quoi. Donc on ne sait pas trop. Les identitaires, eux, disent qu'ils sont déjà en Méditerranée. Donc moi, je pense qu'il faut attendre. Enfin, je vous invite à vérifier dans 2-3 jours, peut-être même avant, mais des infos qui viennent là-dessus, parce que c'est vraiment hyper confus. Donc en fait, leur idée aussi, c'était quand ils sortaient du canal de Suez, c'est d'aller sur les côtes italiennes et de ramasser des identitaires italiens, quoi.
Et donc, tout ça en partant de Djibouti.
Oui. Oui.
C'est quand même étonnant.
Oui.
C'est pas lié du tout à la base militaire française sur place qui pourrait avoir des potes à l'intérieur. Non, je dis ça comme ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Non, je n'ai pas trouvé un bateau comme ça avec des copains qui...
Non, mais alors le bateau était loué, etc. Une entreprise, etc. C'est très...
Ah, il y a des gens qui louent comme ça pour
oui,
faire
oui,
ça.
Oui, je vous en parlerai vite fait après. Donc, c'est... Alors, le bateau, justement, hein, c'est aussi là-dessus que je voulais venir. On ne parle pas d'une barque. Hein. C'est un bateau qui fait 40 mètres de long. Il y a un second bateau semi-rigide dessus. Il y a une grue. Enfin, ça ressemble à un chalutier, quoi. On n'est pas... Enfin, c'est pas un petit Zodiac où ils font les petits malins dessus, quoi. On est vraiment dans du bateau, vraiment. Donc voilà, et donc ben, on revient au patron de l'entreprise, hein, qui a loué le bateau et qui a aussi fourni l'équipage à bord, parce qu'on parlerait d'une trentaine de personnes à bord, et les infos qui sortent aussi, c'est qu'il y aurait des hommes armés, en fait, à bord du bateau. Voilà. Donc là aussi, on est... Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas. parce que je veux dire, l'extrême droite, on sait qu'elle flirte souvent avec les armes, etc.
Les paramilitaires.
Les paramilitaires et puis les ventes d'armes, etc. Enfin,
de toute manière, vu le projet, j'imagine que.
Oui, ils sont pas mieux avec.
Soyons logiques.
Ils sont pas mieux avec des petits cœurs et de l'amour à la tonne. Non, effectivement. Et donc, ce patron d'entreprise hein, qui a loué son, ce bateau, enfin, qui leur a loué le bateau, lui, il est complètement au courant hein, des projets des identitaires et il n'y voit absolument aucun problème parce qu'il déclare la politique n'a pas sa place dans une relation commerciale. En aucun cas. Je ne vois aucun problème avec ce navire qui poursuit des recherches légales dans la zone. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil capitaliste ou finalement sous le ciel capitaliste où finalement, on le sait depuis longtemps, le capitalisme n'a aucune éthique. L'important, c'est de faire du fric et bon.
Là, je pense que même le mec, il y croit en fait. Enfin, moi, je vois plus le patron qui croit dans l'histoire et qui se dit, oui, c'est vrai qu'il faut faire ça.
Ah, mais je...
Mais l'argent n'a pas d'odeur.
Oui, c'est... oui aussi, bien entendu.
Ouais. C'est ça. Donc, je voulais aussi quand même revenir un peu sur le financement de ce truc, parce que quand même, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours quand même intéressant aussi de voir comment ils ont procédé. Donc, en trois semaines, ils avaient quand même déjà levé 65 000 balles. Hein. Là, je vous rappelle que Canu... sur un tout autre projet, mais on a ramassé 55 000 en un an. Donc voilà, les identitaires, en tout cas, sont soutenus. Et en fait, leur thune a été gelée par PayPal et un des comptes bancaires des groupes, des générations identitaires a été supprimé par le Crédit Mutuel. Alors, donc, parce qu'il y a eu de la mobilisation. Ouais. Hein, parce qu'il y a eu de la mobilisation, quand même, il y a des gens qui ont dit « Oh, en fait, vous filez de la thune à... » Enfin, des identitaires qui vont faire en sorte que des gens, en tout cas... ne vont pas atteindre les côtes et bon, qui vont sûrement crever en Méditerranée.
Et comme le patron de PayPal s'opposait à Donald Trump plus ou moins à ce moment-là, ça lui donnait l'occasion de dire « Regardez, je suis pas totalement méchant ». C'était bien aussi pour lui, pour l'image.
Surtout qu'il était sur l'entre-deux, en fait.
Oui, c'est ça.
Pas, il a couru un petit peu avec Trump, mais non. Voilà. Donc, je pense que ça lui a... Ouais, je me rattrape.
Oui, c'est un peu ça, oui, c'est ça. Alors, on peut se dire c'est super, sauf qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un délai qui est de 2 mois pour une fermeture de compte, ce qui fait qu'en fait, et que la thune reste toujours la propriété en fait, des gens, donc c'est-à-dire des identitaires, et que ça est disponible pour eux comme le veut la loi, c'est ce qui explique un porte-parole de la banque. Donc finalement, la thune, ils l'ont et elle ne leur sera pas enlevée, quoi. Mais en tout cas, bon, il y a eu une action en tout cas de la banque, on peut se dire bon, c'est bien. Ouais, bon. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait, ils n'arrivent jamais à monter ces projets-là parce qu'ils seraient minoritaires. C'est peut-être ça le problème en fait. Donc, et pour continuer en fait de ramasser de la thune, ils sont passés à un autre mode de ramassage. Ils sont passés par une plateforme de crowdfunding. Et là, ils ont ramassé plus de, alors ils disent 100 000 dollars.
Ouais, ça fait.
Bon, en tout cas, dans la totalité jusqu'à aujourd'hui, ils sont à 130 000. Donc on va répartir un peu tout ça. Bref, et en fait cette plateforme de crowdfunding, en fait elle a été lancée par Chuck Johnson.
Ah, oh, Chucky.
Qui est un ancien journaliste du site d'extrême droite Breitbart, dont le fondateur est Steve Bannon. Vous savez, un des proches conseillers de Donald Trump. Ouais, le monde est petit à l'extrême droite.
C'est lui qui a aussi sauvé la NRA. Vous savez, le truc, quand ils ont bloqué les comptes de la NRA parce qu'il y avait eu des morts, voilà, il y avait eu tout un truc, un juge qui voulait bloquer les comptes, il avait fait basculer les comptes sur ses comptes, enfin sa société en fait, voilà, pour que la NRA n'ait pas d'argent à verser. C'est un mec bien, quoi.
Bah oui. Et d'ailleurs, en fait, ce mec, on en a entendu parler aussi en France, là, ce Chuck Johnson, parce qu'en fait, à la fin de la campagne présidentielle en France, ça vous dit rien si je vous dis qu'il donnait 5000 balles pour prouver l'homosexualité de Macron ? Bah, ah, c'était ouais. Lui, en fait. Non, non, c'est vraiment des gens formidables, éthiques.
Très fréquentables.
Oui, très, très fréquentables. Voilà. Et petit big up à Stan, parce que j'ai pensé à toi aussi quand j'ai relevé cette information.
Non, déjà... pas parce que c'est un identitaire.
Non. Pour la suite, en fait, qui va arriver, c'est déjà, bon, les donateurs, ils sont au nombre de 1600, tous anonymes, évidemment. Hein. Et sur la plateforme, on peut aussi faire des dons en... Bitcoin.
Ah oui, oui.
C'est génial ça, hein. Vraiment, le Bitcoin, c'est ni vu ni connu, ça passe partout. Et donc l'extrême droite aussi américaine soutient le projet des identitaires européens, parce que l'ancien leader du Ku Klux Klan, David Duke, et une autre figure majeure de l'extrême droite, Jack Posobiec, ont eux aussi appelé à soutenir l'appel aux dons. Alors quand même, pour la blague, parce que je trouve ça quand même tellement ridicule dans la notion d'éthique qu'ils ont ces gens, c'est que les identitaires européens dénoncent l'américanisation. Et je trouve ça vraiment, mais d'un ridicule. Mais bon.
Sauf pour la plateforme de crowdfunding.
C'est ça. Donc voilà, enfin bref, je vais pas tenir 3 quarts d'heure avec ça, mais en tout cas, l'extrême droite avance. et qu'en même temps, ils participent d'une certaine manière bah, à la politique européenne. Vous savez, celle qui file des milliards, 3 exactement, à M. Erdogan. Alors, on ne sait plus vraiment s'il est président ou dictateur. Enfin, ouais. En tout cas, c'est en transition. Peut-être un dictateur en transition.
Un dictateur en marche.
C'est ça. Et c'est aussi l'Europe hein, qui avait évidemment... négocié avec Kadhafi à l'époque, le sort des migrants qui laissait crever tranquillement dans le désert.
Et qui est en train de négocier de nouveau avec la Libye un accord qui ressemblait à celui qu'ils avaient avec Kadhafi.
Voilà. Et c'est aussi cette Europe qui ferme ses frontières et qui laisse les pays fermer leurs frontières. Donc hein, pourquoi on peut se le rappeler ? C'est peut-être pour... peut-être pour refuser l'entraide, en fait, peut-être refuser la solidarité aussi avec des personnes en fait qui ne font que fuir la guerre et la mort, en fait. Hein. Faut quand même qu'on se mette ça en tête, parce que ces gens-là, ils traversent pas la mer dans des conditions dégueulasses juste pour voir du pays. Hein. Sauf juste leur cul, en fait. Hein. Ils veulent juste rester vivants. Donc voilà, et bien évidemment pour continuer de nous faire croire à nous aussi. Et c'est là où finalement je trouve que les thèmes des identitaires et de l'Europe et des différents présidents et présidentes. Bah c'est que les migrants, c'est un danger, quoi. Hein. C'est... Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un danger, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je vais juste terminer par ni patrie ni frontière. Hein. Ça, on n'arrêtera pas de le dire, en tout cas, d'ici, en tout cas. Et solidarité sans frontières aussi, parce que finalement, les migrants ou migrantes, on s'en fout d'où ils viennent. C'est juste des gens qui cherchent de l'aide et un peu de repos, je pense, vraiment. Donc voilà pour mon sujet sur ces identitaires européens.
Moi, je voulais juste, alors, je vais faire une parenthèse qui sort un peu du truc. C'est très très intéressant ce que tu as dit. Et moi, ça va être beaucoup moins intéressant. Juste, on s'est un petit peu moqué du patron de PayPal au milieu. En disant qu'il a couru un PayPal avec Donald Trump, tout ça. Mais au moins, il va dans le bon sens à des moments, en fait. C'est bien aussi, des fois, de reconnaître qu'il y en a qui se rendent compte que ça marche pas. Enfin, parce qu'ils sont débiles à ce moment-là. Et ils changent d'avis. Et voilà. Ils ont le droit de changer d'avis.
Et puis après, enfin, encore une fois, je me dis, c'est bien que des gens.
C'est du capitalisme, de toute façon, c'est une banque, hein, PayPal. Hein, donc, c'est un truc d'échange. Donc,
je parlais globalement, je disais juste que des fois, on critique une personne en disant, oh là là, c'est quand même, il a fait ça avant et maintenant il fait ça, on voit bien. Des fois, ils ont juste aussi le droit de se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bien.
Ah oui, mais après, moi, surtout, ce que je me dis, c'est que c'est toujours embêtant qu'en fait, on arrive à bloquer ces projets. Parce qu'on bloque des entreprises, ou en tout cas on demande à des entreprises d'agir, et je pense, selon moi, c'est vraiment là le problème, quoi. C'est que finalement, le jour où on aura gagné contre les fascistes, c'est le jour où ils seront 10 à monter un projet et qu'ils se cassent la gueule, en fait, et qu'on n'ait pas à demander à une entreprise capitaliste de lui dire s'il vous plaît bloquez leur argent. Parce que c'est tout le problème pour moi, c'est que les identitaires, si on en arrive à ces trucs-là de bloquer, c'est qu'ils arrivent à leur putain de projet, quoi. Et que ça, je pense que c'est dramatique, quoi.
Ouais, puis je pense qu'il faut avoir une analyse un peu, pour moi, plus large. C'est que faut faire attention en ce moment. Je trouve qu'on a, dans les milieux progressistes en général, une tendance à traiter de facho assez facilement. Sauf que je rappellerai que le fascisme, c'est quelque chose de très défini dans l'histoire, quand même, et que c'est pas non plus, voilà. Et que du coup, on passe un peu à côté du fait que, ces identitaires-là, n'ont pas les mêmes méthodologies, la même visibilité, les mêmes habitudes militantes que pouvaient avoir les partis fascistes des années 30 ou même le renouveau fasciste des années 60, et qu'en fait ils sont très très bien adaptés à notre époque, et qu'en fait ils portent une idéologie d'extrême droite, d'une idéologie de haine et de différentialisme, très clairement, mais qu'il faudrait peut-être pas non plus les réduire à ce qu'ils ne sont pas, et du coup leur donner l'opportunité de dire mais non, regardez, nous on est, par exemple, on n'est pas en européen, donc en fait on n'est pas fasciste comme à l'époque de l'Italie, où on était pour l'Italie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils ont intégré dans leur matrice des choses qui n'étaient pas dans les anciennes mouvances fascistes, et qui sont en fait des choses qui sont clairement à l'extrême droite. Et je pense qu'il faut être très vigilant, nous aussi, à la façon de ne pas les réduire à ce qu'ils ne sont pas, et de ne pas leur donner de porte de sortie un peu facile, quoi. Voilà.
De toute manière, les extrêmes ont toujours été très forts sur la communication, et donc c'est normal qu'ils se mettent à jour en termes de communication. Et ils sont...
Puis je pense qu'idéologiquement, ce ne sont pas les mêmes que... même si c'est une idéologie merdique et haineuse et tout ce qu'on veut...
Bah, ils l'ont mis à jour.
La même qu'il y a 40 ans, 50 ans.
Il la module, en fait. Quoi. Ouais. Enfin bon, voilà, je vous laisse. Enfin, je vous invite en tout cas à suivre, pas leurs aventures, j'ai envie de dire, mais on peut espérer qu'ils se cassent la gueule ou que le bateau se noie. Ce serait vraiment formidable. Parce que bon... Ça filera à bouffer aussi, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, on peut continuer avec un peu de musique.
Allez.
Allons-y.
c'était Exile du groupe Dolin. Donc c'est toujours à la causerie sur Radio Canu.
Ah, j'ai pas eu la joie de te relancer.
Bah ouais.
Merci pour le titre, Clara. C'est vraiment chouette.
Bah de rien.
Voilà.
C'est la musique bretonne sous speed, quoi.
Ouais, complètement. Alors on appelle ça de la musique irlandaise.
Irlandaise.
Ouais, ok.
Mais c'est un groupe français.
Ah ouais, d'accord. Mais ils
sont
de
bretons.
La drogue, quoi.
Parce que ça va. Pas ma connaissance.
Vite. Ça va très vite, en tout cas.
Et donc, bah Stan, c'est à toi. Et moi, je ne résiste pas à l'idée de te dire le docteur qui ?
Qui ?
Attendez, moi, je vais vous parler d'une série. Je vais parler de. C'est magique, non ? Voilà.
Il y a des montages comme sur France Culture.
Ouais, c'est fou. Merci. Pour savoir, j'ai levé la main et tout, c'était magnifique. C'était on devrait faire ça plus souvent, je trouve ça assez jouissif. Ouais, je vais vous parler de Doctor Who, je vais parler de cette série, cette magnifique série, j'adore. J'ai mis un t-shirt pour que ce soit visuel en plus. Pour, bon, ils sont,
les auditeurs sont contents.
Voilà, j'ai mis un t-shirt Doctor Who, il est très très beau. C'est mon préféré. Je vais vous parler de cette série donc, qui a démarré le 23 novembre 1963. Et oui, ça a démarré il y a très très longtemps. Un docteur qui voyage à travers l'espace et le temps dans une cabine téléphonique anglaise. Un TARDIS, voilà. Genre, c'est le Times and Relative Dimension in Space.
Oh, c'est beau.
Ouais. C'est, d'ailleurs, c'est vachement plus grand dedans qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est marrant. Voilà, donc la série, elle compte actuellement 813 épisodes et c'est encore en cours de production. Ce qui en fait la série de science-fiction la plus longue de tous les temps. Cela parle d'un docteur, qui est absolument pas docteur, d'ailleurs, hein, rien à voir. C'est okay. Un extraterrestre de la race des seigneurs du temps.
Ok.
Jean-Yves va se faire plaisir ce soir.
Et pourquoi docteur, alors ?
C'est le petit nom, en fait, sur leur planète, Gallifrey. Ils se donnent tous un petit nom, tu vois, il y a le maître, the master, il y a okay. Le docteur. Okay. Ils ont tous le petit, voilà. Et c'était par rapport à son empathie, en fait, envers les gens, tout ça. Donc il est totalement fan de la planète Terre, ce docteur. Il y revient très 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 souvent. Il se retrouve entouré de compagnons, la plupart du temps humains justement, et féminins sur les premières années. Rose, Martha, Amy Pond, Rory, Clara. Oh, c'était beau. Que de personnages fantastiques qui complètent à merveille le docteur. Et oui, Clara, elle fait maintenant la technique. Ah,
elle a pas pris une ride.
Et oui, c'est ça qui est beau. La série est en deux parties, en fait, on va dire. Il y a une première partie qui a démarré donc en 63 et qui s'est arrêtée en 89 par la BBC. Elle a dit, bon, voilà, faute d'audience, à un moment, elle a arrêté la série. La série, elle reprend en 2005 avec le 9e Docteur. Et là, vous allez me dire, waouh, le 9e Docteur, ça n'a aucun sens.
Waouh, un 9e Docteur, ça n'a absolument aucun sens.
Oh, merci. Et oui, c'est la particularité jouissive, délicieuse et délectable de cette série. C'est que le Docteur, quand il est mortellement blessé, il se régénère. Et la régénération comporte des changements. C'est un nouvel acteur qui arrive, c'est la même personne en fait. Enfin, c'est donc pas le même acteur, mais c'est la même personne dans la série, avec les mêmes souvenirs. Avec, voilà, il sait tout ce qui s'est passé avant. Mais le corps est différent, et le caractère est différent aussi. Chaque acteur qui joue le docteur l'interprète à sa manière. Quand le docteur se régénère en fait, c'est une page qui se tourne. On change de personnage, on change la manière d'aborder l'histoire, d'aborder les conflits. Et c'est l'astuce miracle qui fait que c'est une série qui se terminera jamais, enfin je l'espère. C'est que ça peut continuer tout le temps en fait, tant qu'il y a des docteurs qui ont envie. Et c'est ce qui donne l'occasion à Internet de s'enflammer dans les larmes et dans les joies à chaque fois qu'il y a un nouveau docteur qui est annoncé. On en parlera un petit peu plus tard pour le dernier docteur annoncé. Mais celui d'avant, c'était un vieux. Et il y avait plein de jeunes qui disaient « Mais pourquoi ils ont mis un vieux? Mais c'est pas possible, mais quelle horreur !» Voilà. Les gens sont cons des fois. Et là, ils le sont encore plus pour le nouveau docteur. On y viendra. Les épisodes sont en fond, alors sur la partie 2005 maintenant, c'est en gros 45 minutes par épisode, 45 minutes de bon plaisir. C'est bien 45 minutes de plaisir en plus. C'est pour raconter des histoires parfois complètement dingues. On en a une, alors je vais spoiler le minimum possible en fait, j'en ai une comme ça qui m'est venue. Il y a le docteur qui arrive sur une planète, et qui se bat depuis des générations et des générations. Il y a des luttes, voilà, c'est des luttes qui continuent depuis toujours. Et ils ont des machines, en fait, sur ces planètes-là, des deux côtés, qui leur permettent de générer des clones. Et ils génèrent des clones comme ça pour aller se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans la tête de chacun, en fait, cette guerre, elle dure depuis des millénaires. Et en fait, le docteur, quand il... Enfin, au fur et à mesure que l'histoire avance, que l'épisode se déroule, il se rend compte que la guerre, elle a démarré il y a seulement 7 jours. Mais vu qu'il y a eu des générations et des générations qui sont morts, mais en fait, pour eux, ça fait des... Voilà, c'est un conflit infini et plus personne ne sait pourquoi ils se battent. Et donc, il y a cette idée de, voilà, c'est un conflit infini, en même temps, ça dure que 7 jours, ça n'a aucun sens et c'est assez jouissif, comme toujours, avec le docteur. Hop, changement de page. Parfois, il y a des épisodes beaucoup plus riches en émotions. Il y a le voyage d'une jeune femme sur les lieux et le jour de l'accident qui a coûté la vie de son père. Et il y a toute une réflexion justement sur l'égoïsme de l'être humain et tout ça. Des fois, c'est... Enfin, voilà, le docteur, c'est... Enfin, le docteur Wu, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. J'en parlais un petit peu pendant la prépa, c'est une série où on y voit ce qu'on a envie d'y voir. Il y a tellement de sujets qui sont abordés, c'est tellement fait de manière différente sur chaque épisode. Il y a des showrunners différents, enfin, il y a Ouais, des showrunners différents, il y a plein de choses.
Des scénaristes.
Des scénaristes, voilà. Des scénaristes, ouais, différents et qui abordent la chose de manière différente à chaque fois, et ce qui donne un mélange de plein de choses. On peut passer de huis clos à des aventures en extérieur, des rencontres d'extraterrestres, à une vision de qui est-ce que c'était Vincent Van Gogh à l'époque. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a du frisson, il y a plein de choses. Il n'y a pas de chronologie temporelle dans le Docteur, en fait, dans Doctor Who. Il y a un épisode peut se passer en 3017 et le suivant dans les années 50, mais tous les épisodes s'enchaînent avec logique. C'est un seigneur du temps, donc il peut se déplacer là où il veut, à la date qu'il souhaite. Et dit comme ça, on pourrait croire qu'on peut la picorer, cette série. On peut avoir un petit épisode ici, un petit épisode là, mais finalement, après c'est peut-être le puriste en moi qui parle, mais pas du tout. Pour moi, c'est une série où chaque épisode explique un autre, qui valide un événement, qui amène une transition, qui explique un sentiment, qui perpétue une tradition.
Il y a même des fois des événements croisés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées des années avant, et en fait on revient dans cet épisode-là et il croise presque l'ancien docteur. Ça se passe à quelques minutes près, et en fait ça remodifie l'histoire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est hop, on repart pour autre chose parce qu'on a remodifié le moment où on était déjà passé. C'est marrant.
Et des fois ça parle d'épisodes qui ont... Enfin, un épisode... qui était fait dans les années 70. Enfin, ils s'occupent pas que des épisodes, oui, de la saison en cours, quoi. Ils font vraiment des recoupements qui sont fous et qui font partie du mythe, en fait, du Docteur Who. Pourquoi c'est une série fantastique? C'est une série... Enfin, une des particularités de cette série, c'est qu'elle transpire à donf le pas cher. C'est le chips, quoi. C'est, voilà, ils ont pas d'argent, ces gens. Quand ils ont fait la série, je pense qu'ils avaient vraiment pas de thunes. Et ils sont démarrés sur un délire complet. J'ai les petites explications de pourquoi le TARDIS, pourquoi c'est une cabine téléphonique. C'est un vaisseau spatial intergalactique super puissant, ce truc. Normalement, tu vois, c'est vraiment le truc monstrueux, ça résiste à plein de choses, et voilà. Et ça ressemble à une cabine téléphonique. Et en fait, dans le tout premier épisode, donc en 63, ils expliquent que ça arrive à Londres. Et en fait, le TARDIS, il se camoufle dans un objet, dans un truc qui fait que c'est crédible, en fait. Et voilà, le système de camouflage se casse, et donc le TARDIS restera toujours une cabine téléphonique. Le docteur, il arrive à ouvrir des portes de loin, il arrive à savoir si l'air, il est respirable à l'extérieur, dans toutes les planètes, il arrive à savoir cette maladie, à quel point elle avance, il peut guérir des choses, il peut faire plein de... C'est un tournevis. Le mec, il a un tournevis dans la main qui a une LED, enfin, il y a un petit bout de lumière et c'est tout. Mais ça marche, on y croit, c'est comme une baguette magique, mais ça fonctionne. C'est bas de gamme, c'est génial. C'est des astuces qui ont été faites, enfin, qui ont été... développé et commencé dans les années 70 et qu'ils ont perpétué maintenant, en fait. Mais ça fonctionne toujours. Enfin, c'est totalement crédible, il n'y a aucun problème. Le jeu des acteurs est extraordinaire par rapport à ça et c'est magique. Les ennemis, il y avait les Daleks, il y a les Cybermen, il y a tout. Ils ont quasiment pas changé. Ils ont maintenant un petit lifting pour les rendre un petit peu plus sexy, mais ils sont à la fois pas du tout crédibles. Et en même temps, ça marche complètement. Moi, j'y crois, je suis à fond dedans. Je sais que Fab disait même que...
Enfin, ah oui, c'est... Ouais, bah, moi, je sais que j'expliquerai après où j'ai connu le Docteur Who, mais pour moi, ça a toujours marché. C'est-à-dire, même si c'est carton-pâte, on démarre l'épisode, on s'accroche, et puis à la fin de l'épisode, on a l'impression d'avoir vu un truc en 3D avec plein de trucs qui sortent, quoi. Alors qu'il y avait qu'un tournevis.
j'ai fait une recherche juste avant, donc c'est alors la recherche la plus... la moins fake news du monde, c'est-à-dire que c'est vraiment sur un site pris au hasard. Un épisode de Doctor Who coûterait donc 1 million d'euros. un million de dollars. Et pour équivalent, un épisode de House of Cards, c'est 4 millions, Breaking Bad, c'était 3 millions. Enfin, c'est quasiment une des séries qui coûte le moins. Même Kaamelott en France coûtait beaucoup plus cher par épisode, en fait. C'est vraiment une série où tout est fait pour être à prix réduit, en fait. Mais ça se voit pas, enfin, c'est ce. Voilà.
Non, parce qu'ils ont des très bons acteurs et actrices.
Ouais.
Il n'y a pas que le docteur, hein. Tous ceux qui jouent, généralement, sont des pointures, quoi, vraiment.
C'est magnifique. Ils y croient à fond. Je pense que pour au casting, en fait, les gens qui y vont, c'est qu'ils ont envie d'incarner le docteur. Ils ont envie d'incarner un coéquipier du docteur. Et ça marche vraiment. La France est un des pays qui est le moins touché par la ferveur de Doctor Who, mais même si, quand même, de plus en plus. Pour donner l'exemple, l'épisode Le Jour du Docteur, donc, qui fêtait les 50 ans de la série, qui est un épisode absolument monstrueux, ça a été diffusé en simultané. Donc en simultané, c'est-à-dire que ça a démarré vraiment à la même seconde, dans 94 pays différents. Ce qui a donné un 6h50 en Australie, il fallait se lever très très tôt à ce moment-là. Ça a aussi été transmis dans 1500 cinémas dans le monde, également à la même seconde, et ça a réuni donc 77 millions de spectateurs qui ont vibré pendant cet épisode en même temps, à la même seconde, aux mêmes choses. Et c'est beau. Moi j'étais devant ma télé, parce qu'en France c'était qu'à la télé, et c'était incroyable. Pourquoi je parle de cette série aujourd'hui? Juste parce qu'ils ont viennent d'annoncer le Docteur, donc le 13e, ou le 14e, si on valide que le War Doctor est le 9e docteur ou non. Ça, c'était juste pour vous perdre un petit peu. Donc, le 13e docteur a été annoncé, et pour la première fois, il est incarné par une femme. Jodie Whittaker, qui devra faire suite à Peter Capaldi, qui avait lui-même eu la très dure tâche de faire suite à l'enchaînement des deux meilleurs docteurs pour moi, David Tennant et mon amoureux Matt Smith. Bien entendu, on trouvera des petits cons qui vont s'insurger sur le fait que le docteur soit une femme. Pour eux, je n'aurai pas d'autre mot que vous n'êtes pas digne de cette série, et encore une fois, vous êtes des petits cons. Voilà. Une dernière info aussi, merci au travail merveilleux de Steven Moffat, qui a été un scénariste et qui a été showrunner aussi pendant les 7 dernières années. Et voilà, il a fait un boulot merveilleux. Il a tenu vraiment ce show à une hauteur incroyable. Et la place est prise maintenant par Chris Chibnall. C'est un truc du genre, quoi, le nom. C'est le créateur et le showrunner de Broadchurch, qui est une très très bonne série aussi. Il a déjà écrit des épisodes du Docteur, et je pense que ça va être tout aussi bon. Voilà, donc je suis un fan inconditionnel du Docteur, surtout du redémarrage à partir de 2005, c'est comme ça que je l'ai connu. Je suis un très grand fan. Je suis pas un très très grand fan du 9e Docteur, il fait une saison. Je le trouve je le trouve pas très Docteur, en fait. Pour moi, il pourrait régler des trucs avec des coups de poing, et ça fonctionne pas dans Doctor Who. Mais je vous conseille, si vous connaissez pas cette série, de commencer par 2005. La période entre 63 et 89, elle est devenue un peu dure à regarder maintenant. Il faut quand même être un vrai puriste pour se relancer là-dedans. Puis ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'épisodes. Mais vraiment, lancez-vous, regardez cette série. Laissez-lui une chance, et c'est une chance de vous montrer que derrière ces aspects parfois loufoques, ce côté très chips, c'est une série qui est pleine de bon sens, de valeur, d'histoire et de merveille. Elle vous emmènera à des endroits, à des contrées que vous n'imaginez pas. Voilà.
Ça donne envie. Alors justement, je disais, moi j'ai découvert le Docteur Who avec une traduction de la toute première série, avant la coupure, et j'ai découvert ça dans le Club Dorothée. Oui, ça me rajeunit pas. Oui. En 1989, le dimanche matin, je peux vous le dire.
À
9h. Donc ça, j'ai cherché quand c'était, mais c'était vraiment à 9h le dimanche matin, et je me levais, j'avais mon petit bol de céréales, là, je sais pas quoi, ou je sais pas ce que je disais, et j'ai eu le Docteur Who. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour moi, je devais à l'époque, j'ai 89, j'avais 12 ans. Donc c'est l'approche pour moi de la SF. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'était pour la première fois une série de science-fiction. Et après, il y a eu d'autres séries de SF. Mais ça a été une des premières en tant qu'enfant où j'ai été. Et ça m'a passionné parce que, comme je disais, c'était très carton-pâte, mais on y croit à fond. Alors on rentre dans le jeu. C'est hyper cool, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et ils en ont passé que deux, je crois, deux ou trois dans le club. Et après, ils ont arrêté parce qu'ils disaient, oula, c'est pas vraiment pour les enfants. Et là, ils ont pas totalement tort parce que tous les épisodes de Doctor Who sont pas pour les gamins.
Ah, mais il y en a qui font peur. Ouais, il y en a vraiment qui font peur, en fait.
Donc c'est bien, ils l'ont pas mis longtemps, j'étais très content de la retrouver sur France 4, France 2, France 3,
qui l'a passé.
C'est France Télévisions qui avait racheté les droits, donc ils l'ont rediffusé. J'étais content parce que c'est une série vraiment intéressante. Enfin, moi, je trouve vraiment qui amène. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est souvent les chaînes qui sont frileuses parce que dès le début de Doctor Who, les créateurs voulaient que le docteur devienne une docteur parce que c'était l'idée qu'en fait, quand on se régénère, ben on peut être blanc, on peut être noir, on peut être asiatique, on peut être homme, on peut être femme, ça n'a aucune importance. Et que c'est la BBC qui a freiné énormément en disant « Ouh là là, le public n'est pas prêt, tu te rends compte, une femme dans les années 60-70 », voilà. Et c'est exactement la même chose que pour Star Trek, où en fait, au départ, le capitaine Kirk devait être une femme, et où c'est la Fox qui produisait, qui a dit « Non, 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 on veut bien qu'il y ait un Russe, un Chinois, un Russe, un Japonais et une femme noire, mais tu ne vas pas rajouter en plus une capitaine ». Voilà, et c'est un petit peu le truc où on voit que c'est les chaînes qui sont plus frileuses que les créateurs, et ça, c'est vachement dommage.
Ouais, en même temps, vous parliez de réaction de... Je reprends très mot, petit con.
Il y en a toujours.
En 2017, oui, non, mais c'est ça qui est quand même, encore une fois parlant aussi, quoi. C'est ouais. Que les chaînes sont frileuses, mais qu'en même temps, tu te rends compte qu'il y aura toujours...
Il y aura toujours des cons.
Mais il y a toujours ceux qui n'aiment pas le changement aussi. Déjà, t'as, dans le tas, il y a les cons. Les vrais gros cons et ceux qui sont juste en train de dire non, je
oui, enfin je touchais pas mon joueur,
voilà,
quoi.
Touchez pas non, à mon docteur, voilà. Quand il y a eu le changement, David Tennant, Matt Smith, c'était deux jeunes, tout ça, il y a eu pareil drame parce qu'en fait on voulait juste pas que David Tennant parte, quoi.
Et pourtant, mais c'est le but de la série.
Et c'est le but, et c'est ce qui la rend absolument incroyable. Mais par contre, oui, de là, enfin, c'est vraiment des petits cons actuellement qui sont là en train de dire s'ils ont fait une pétition, tout ça, et la BBC a dû dire, enfin, vos gueules, quoi. Et même la BBC a dit vos gueules.
Et là, où moi je trouve ça hallucinant, c'est que l'actrice qui arrive, c'est une nana qui joue mais excessivement bien, qui est une pointure, et de se dire qu'en fait, elle veuille prendre ce rôle-là parce que finalement, elle a fait un casting. Ben, c'est juste, ça montre la qualité de la série, parce que généralement, des gens qui sont des excellents acteurs ou actrices, comme c'est son cas, qui disent bah tiens je veux bien incarner un personnage comme ça, c'est que la série elle a quelque chose à apporter. Et moi je me dis mais ils se plaignent alors qu'ils ont une pointure qui va leur faire à mon avis une saison merveilleuse au moins.
Ouais.
Voilà.
Et ben
musique.
Eh ben allons-y.
Chez la jolie Rosette au café du canal, sous le trou du tilleul qui ombrageait le bal. Vous pouvez lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé. Et je ne savais pas que tu étais venu. Et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sans mon berceau, les fées ne se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais sur un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
Nous étions seuls au monde dans ce bal populeux, et d'une seule main je prisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Mon cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que tu aurais pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie Rosette au café du canal, sous le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. Sous deux cœurs entrelacés, ici on peut t'apporter ses baisers.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, La Causerie, le dimanche soir à 22h-23h. On vient de s'écouter Les Ogres de Barbac au Café du Canal, et je vous promets qu'un jour j'aurai fait le tour de tout ce qu'on écoutait dans les années 2000.
Ah, j'adore.
C'est Fab qui prend,
c'est Fab qui va
prend la suite. Et oui. Tu vas nous parler d'un cinéaste.
Ouais. Bah en fait, il y a très peu de temps, George Romero est mort. Et George Romero, c'est pas n'importe qui. Alors je vous dis, il est mort le 16 juillet 2017. Donc vous voyez, c'est il y a pas longtemps. Et George Romero, bah c'était un très très grand cinéaste, mais malheureusement très peu connu parce qu'il faisait beaucoup de films de genre. Donc j'ai décidé unilatéralement avec moi-même de vous parler de George Romero ce soir et d'essayer de vous donner l'envie de découvrir ou de redécouvrir sa filmographie.
J'ai cru que t'étais un vrai, que t'allais dire, et de regarder toute sa filmographie.
Bah, je pense qu'il faut, mais après ça c'est mon avis perso. Romero, il est né en 1940 à New York. C'est le fils d'une mère américano-lituanienne et d'un père cubain. Alors il fait partie de la classe moyenne basse, vous voyez, comme on dit aux États-Unis, ils ont créé cette notion-là. En gros, il habite dans des quartiers pas terribles de New York, hein, faut être clair, il avait le Bronx et d'autres quartiers. Alors sans jamais connaître la pauvreté, il la côtoie souvent dans le New York de l'après-guerre, parce qu'il est né en 40, et il va aussi côtoyer beaucoup le racisme qu'il va même lui-même subir régulièrement en tant que demi-cubain. Voilà, donc c'est ce qu'il disait dans ses interviews. Alors, dès l'âge de 14 ans, il va commencer, à l'aide d'une caméra empruntée à long terme, donc, à faire du cinéma, parce que c'est un passionné de cinéma. Et faut savoir qu'il va beaucoup dans les cinémas de quartier pour regarder des films. Alors à l'époque ça coûtait rien en fait, on payait quelques scènes, on pouvait regarder des films. Il tournait en continu les films et on rentrait. Et lui il décide de faire du cinéma et surtout il décide de lui-même de faire des choses réalistes. C'est-à-dire que dès le départ il a envie de faire un cinéma réaliste. Voilà, il est totalement autodidacte au départ. Il va avoir des petits soucis avec la police lorsqu'il va faire tomber un mannequin enflammé par une fenêtre, a priori. Alors certains disent du deuxième, d'autres disent du douzième étage, alors c'est pas trop, parce qu'en fait il voulait filmer une scène réaliste de gens qui fuyaient l'incendie d'une tour. Voilà, il avait 15 ans et il inventait des petits effets réalistes comme ça. Voilà, il est doué pour les études, comme je l'ai dit, passionné de cinéma, et du coup il arrive à rentrer à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, où il y a une section cinéma qui est plutôt accessible, avec une bourse au mérite. C'est-à-dire que c'est pas le sport, hein, comme il le dira souvent dans les interviews, c'est plutôt que les gens misent sur lui en disant oui, il est quand même assez doué le petit là. Voilà. Il tombe d'ailleurs amoureux totalement de la ville de Pittsburgh, parce que pour lui, c'est une ville qui n'a pas réussi, mais où les gens s'entraident. Et il le dira toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il voit Pittsburgh, et c'est vrai que Pittsburgh, c'est une ville plutôt pauvre, et où finalement, il y a une entraide au sein de la ville assez forte par rapport à d'autres villes américaines. Il trouvera à Pittsburgh tout ce qu'il aime dans la nature humaine. Il est par contre largement épris d'indépendance, et pour financer son premier long métrage, il va faire un appel aux dons. Ça s'appelle pas encore le crowdfunding à l'époque, auprès de ses amis, et puis de sa famille, et puis de ses proches, pour créer une société coopérative de production. C'est-à-dire que chaque personne qui met une bille récupère une partie de ce que ça rapportera. Et il arrive à... ça s'appellera Image 10 Productions. Voilà, c'est le nom de sa société. Il va faire appel à des amis, à des habitants de Pittsburgh pour jouer dans son premier film, parce qu'il n'a pas un copec, donc voilà. Aucun acteur dans son premier film n'est réellement professionnel, mais ce film va marquer l'histoire du cinéma, vu que c'est La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead. Et juste pour information, c'est la réinvention totale et la redéfinition totale des films de zombies. Parce que les films de zombies existaient déjà avant, mais Romero lui dit la magie, la religion, le châtiment divin, le vaudou, tout ça, on enlève, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est que les zombies soient là. Donc il enlève tout le côté mystico-bizarroïde des précédents films de zombies. Et en fait, ces zombies, ils arrivent un peu comme ça. Alors, des fois, c'est à cause d'un virus créé par l'armée. Des fois, c'est une météorite qui tombe, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, il n'y a jamais vraiment d'explication de fond et on s'en fout un peu. Parce que l'essentiel, c'est que ces zombies soient là. Mais la force de Romero, c'est que dans ces films de zombies, il ne mettra pas que des zombies, il mettra beaucoup de politique, à chaque fois. Dès le premier d'ailleurs. Dans La Nuit des Morts Vivants, très clairement, il dénonce de façon assez magistrale le racisme de la société américaine. Clairement, tout le film tourne autour de cette notion-là. Et d'ailleurs, si les gens sortent du film sans l'avoir vu, ils ont vraiment des problèmes, parce que vraiment, on le ressent fortement. Et d'ailleurs, le film va être un succès et ça va surprendre tout le monde. Alors je vous rappelle, il a mis 114 000 dollars dans le film va en rapporter 30 millions. Voilà, donc
de quoi une belle carrière après. Quand même.
C'est ça, et puis
peu d'argent pour y aller.
Et c'est surtout qu'en fait, Romero, ça va lui permettre de prendre sa part de sur ces 30 millions, vu qu'il vient de la société. Il va dissoudre la société qu'il avait créée en accord avec tout le monde. Hein. C'est pas lui qui dit on dissout, c'est juste qu'ils disent bon voilà. Et Romero, ça va lui permettre toute sa vie de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui va s'autoproduire en permanence, qui lui évitera d'avoir le poids des studios sur les épaules. Et puis voilà, et à chaque fois qu'il est sur un projet d'ailleurs où les studios commencent à l'emmerder, il se barre. Parce qu'il n'a pas envie qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Donc en fait, du coup, Romero est quelqu'un de très libre, on le sent, dès le départ, dans sa façon de faire du cinéma. Et il va enchaîner avec des films moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants sur le fond, et notamment le fond politique. Alors c'est There Always Vanilla, qui lui va avoir plutôt tendance à parler de la pauvreté aux États-Unis. La nuit des fous vivants, qui va être sur notre rapport à la folie, qui est très intéressant. Season of the Witch, sur le féminisme, qui est montré du doigt parce que ce sont toutes des sorcières. Vous voyez, c'est, oui, il y a toujours un petit truc derrière. Et puis surtout, Martin, ou Martine en américain, qui est l'histoire d'un jeune homme obsédé par le sang, qui tue et viole ses victimes, et qui les vide de leur sang avec un rasoir. Alors ça peut paraître comme ça très barbare, mais en fait, c'est pas du tout ce dont il va nous parler dans le film. Ça va effectivement être présent dans le film, hein. Mais en fait, il va nous parler du fait que ben, son gentil oncle, hein, qui loge le petit Martin, va le découvrir, hein, va découvrir qui fait ces choses-là. Et en fait, eh ben, il va se dire, oh, ben, c'est un descendant de Nosferatu, c'est un vampire. Ouais, mais c'est quand même mon neveu, je peux pas le dénoncer. Et c'est tous les rapports à la famille et à toutes ces choses un peu tordues quand on couvre quelqu'un juste parce qu'il est de notre sang, vous voyez. Et donc, il y a une espèce de rapport au sang, ben, la notion de sang, vous voyez, c'est ça qui est drôle. Le sang au sens littéral du vampire qui le boit et le sang au sens de la famille. Et encore une fois, Romero, avec ce film, va tordre le cou au dictat de la famille, tout en parlant avec un film de genre. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, il va revenir en 78 avec Dawn of the Dead, plus connu en Europe sous le titre de Zombie. Parce qu'en fait, le film avait été remonté par Dario Argento pour l'Europe. Et c'est Zombie, un grand film de zombies, justement. Et c'est un petit bijou où, justement, il va dénoncer complètement le consumérisme des États-Unis avec la fameuse scène où les zombies ne savent pas faire autre chose que d'aller vers le centre commercial. C'est un peu intéressant. C'est-à-dire qu'ils deviennent zombies et puis ils vont tous vers le grand mall qui est là, le centre commercial américain. Il va tourner aussi avec un budget très serré de 1,5 million de dollars. Hein, pourtant, il aurait pu y mettre plus, hein, mais voilà. Pour un gain de 40 millions. Vous voyez, à chaque fois, il fait des culbutes assez intéressantes, hein, comme on dit dans le milieu du cinéma. Et comme il le disait, si t'as une bonne histoire et que tu n'as pas besoin d'un budget pharaonique, mais d'actrices et d'acteurs convaincants et d'imagination. Voilà, lui, c'est son credo. Il dit, pour faire des films, il n'y a pas besoin d'avoir des budgets. Voilà. Il fustige énormément la mode des blockbusters à 200, 300, 400 millions de budget, voire maintenant 1 milliard pour certains blockbusters qui vont sortir. Oui, c'est le cas des Avengers, par exemple, qui va coûter 1 milliard. Et lui, il dit, mais non, pour faire un film, on n'a pas besoin d'avoir des budgets comme ça. Il faut arrêter les conneries. Et d'ailleurs, il dit, plus on met de choses, et je pense qu'il n'avait pas tort, parce que dans la suite d'interview, il dit, plus on met de choses, moins on met de scénarios. Parce qu'il faut rentrer le visuel, et puis finalement, voilà, lui, il aime mieux les scénarios. Dans son film suivant, Knight Riders, qui est sorti en 1981, alors là, il va refléter vraiment sa facette politique personnelle. C'est un film d'ailleurs que les gens n'aiment pas en général, parce que le monsieur, il est un tout petit peu beaucoup anarcho-libertaire sur les bords quand même. Enfin, on s'en rendra compte dans ce film-là. En fait, c'est un film qui est pas très connu, donc moi, je vous invite vraiment à le voir. Par contre, celui-là, pour le coup, ça parle de chevaliers des temps modernes sur des motos. Alors ça peut paraître surréaliste, mais en fait ça existait à l'époque. C'est des gens qui avaient un code de chevalerie tout en étant des motards, vous voyez, puis qui faisaient des joutes avec voilà. Bon.
Comme le rebelle.
Ouais, c'est un peu ça, mais c'est un peu dans cette veine-là ou tout ça. Mais c'est un peu rigolant, mais c'est un peu l'idée, quoi. Mais voilà. Mais en fait, non. Mais dans le film, il montre bien ça. Mais en fait, c'est un prétexte total pour son film, encore une fois, parce que il a lu ça en fait dans un journal et il s'est dit tiens, c'est marrant. Il en fait des personnages et en fait, il va nous parler tout le long du film de la notion de pouvoir dans un groupe d'humains. C'est-à-dire, qu'en réalité, le seul moyen d'être réellement libre, c'est d'abattre le pouvoir au final, et le seul moyen de vraiment être libre, c'est que les autres soient libres. Et c'est tout le sens du film. Et là, si vous y voyez pas une bonne petite fond libertaire Anna, si vous avez un peu raté quelque chose, voilà. Non, mais parce que
tout le monde n'est pas forcément au courant du catéchisme anarchiste.
Oui, je suis d'accord.
Je dis ça pour faire chier.
Ouais.
Je précise.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que son film vraiment, les gens, en fait, il y a des gens qui n'y voient qu'un truc de motard et tout, alors que si on regarde vraiment le sujet et comment les personnages évoluent, on voit bien qu'il y a un rapport au pouvoir extrêmement poussé, en fait, et qu'au final, on nous parle que de ça, quoi. Et pour moi, c'est un de ses plus grands films, hein, je le dis, même s'il est très esthétisant et machin, moi, je le trouve très très bien. Après, il va initier les fameux creep shows, pour ceux qui connaissent, les films avec des petites scénettes, voilà, avec des petits quarts d'heure, comme ça, c'est plein de petits...
Les contes de la crypte.
Alors, les contes de la crypte, c'est autre chose, mais creep show, c'est un peu le même principe.
Okay,
c'est un film avec plusieurs petits films à l'intérieur, et à la fin, il y a une morale noire, vraiment, toujours dans tous les petits films. Voilà, et c'est lui qui va avoir l'idée, avec un pote à lui, de monter ça. Et ça va bien marcher, surtout que Romero va faire un truc très drôle, c'est qu'il va produire deux petits films, un pour Creep Show 1, un pour Creep Show 2, mais il va juste demander aux autres de faire comme lui, c'est-à-dire de le faire avec peu d'argent. Alors pas parce qu'il est radin, mais parce qu'il dit toujours pareil, moins on leur mettra d'argent, plus il y aura d'inventivité, et en fait ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement on reste pas sur des effets gore, qui coûtent très cher, avec du sang partout, machin et tout, mais on reste sur de la façon de filmer, des craintes, des bruits, des choses comme ça, et c'est vachement intéressant. En 85, il va revenir à ses premiers amours, Les Morts-Vivants, avec Le Jour des Morts-Vivants. Alors ça, c'est son film qui aura le succès le plus mitigé. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'honnêtement, il est plutôt bon, mais parce qu'en fait, il désingue l'armée. Et alors, quand on désingue l'armée aux États-Unis, souvent, ça marche pas très très bien. Et quand on le fait dans un film de genre, en plus, là, ça marche encore moins bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, il se fait descendre par les conservateurs américains. Même le président américain de l'époque aura un mot sur ce film-là en disant que c'est honteux, vous voyez, enfin, le truc, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce film, on comprend que bah, les zombies seraient, dans ce film-là, un tout petit peu une arme biologique qui aurait un peu mal tourné. Voilà. Et puis que bon, quand même, les militaires, ils pensent qu'à une chose, c'est d'abord à sauver leur peau et ensuite à voir si les populations survivent. Vous voyez, c'est un peu le truc du film. Donc c'est assez intéressant, je vous invite vraiment à aller voir. Et il a été donc, surtout le film, il y a des gens qui ont demandé son interdiction pour manque de patriotisme aux États-Unis. Voilà. Bon, ils n'ont pas obtenu l'interdiction. Ensuite, ben, du coup, Romero, il va faire deux films après qui, autour de choses qui lui plaisent beaucoup. C'est aussi, il aime beaucoup s'interroger sur la science. Est-ce qu'on fait de la science ? Parce qu'en fait, il le fait aussi à travers ses films de zombies, finalement. Donc, il va faire deux films. C'est Incident de parcours et Des yeux maléfiques, première partie, parce que là, il y a deux réalisateurs de deux films dans Des yeux maléfiques. Et en fait, ben, c'est une vraie interrogation sur les procédés médicaux, sur ce qu'on est fait pour, ce qu'on est prêt à faire pour survivre. Et finalement, est-ce que des fois, on va pas vraiment trop loin pour survivre soi-même ? Et puis, sur l'égoïsme, en fait. Alors, je vous spoil pas le film, comme dirait Stan. Mais par exemple, je vous dis juste, est-ce qu'il faut tuer un petit Indien à l'autre bout du monde pour récupérer son foie ou pas ? Voilà, c'est ce genre de questions que vous aurez dans ce film-là, avec toute la notion de quand tu as du fric, est-ce que tu as plus de droits que quand t'en as pas ? Voilà. Et dans les films de Romero, souvent, il y a ces petits trucs-là qui sont en sous-couche, comme ça, assez bien foutus. Il va signer une des meilleures adaptations de Stephen King, à mes yeux, qui s'appelle La Part des Ténèbres. Alors, les gens détestent le film parce qu'il est extrêmement bavard, sauf que si vous avez lu le livre, bah, le livre, c'est que des dialogues. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de faire un film d'un livre où il n'y a que des dialogues si vous ne mettez pas de dialogue. Vous voyez, c'est là. Alors, voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'un romancier qui voit son pseudonyme devenir un assassin. C'est-à-dire qu'il a un pseudonyme pour écrire des romans noirs. Un jour, il décide de sortir de ce pseudonyme, de révéler qui il est. Et là, il y a une série de meurtres et tout l'accuse. Il y a ses empreintes, son ADN, tout l'accuse et tout, voilà. Et en fait, c'est que son pseudonyme est un tout petit peu devenu vivant. Vous voyez, c'est voilà, c'est très intéressant ce rapport. Ou alors peut-être que c'est lui qui est fou et schizophrène. Vous voyez, tout des trucs. Ouais. Enfin, je vais pas vous raconter le film non plus. Hein. Mais c'est pour moi une excellente adaptation. Et alors le problème, c'est que ce film-là, parce qu'il y tenait vraiment, Romero, il y a mis énormément d'argent, là, ce coup-là, parce qu'il y avait besoin, en fait, de tourner dans plusieurs endroits, il fallait, voilà. Et il va donc perdre beaucoup d'argent sur ce film-là, et donc Romero n'est pas un homme riche, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il va, dans tous ses projets, y mettre parfois, voilà, main à la pâte. Et notamment Stephen King, qui demande énormément d'argent pour adapter ses films, et rien que ça va coûter très très cher. Ses livres, pardon, pour que ses livres soient adaptés, ça va coûter très très cher. Il décide de faire un film pas très cher, mais où il parle de lui, et c'est Brazier. Alors c'est écrit Bruiser, et ce film, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin sans visage, et qui a donc perdu le plus important chez nous, c'est son identité. Bah oui, quand on n'a plus de visage, on n'a plus d'identité. Et en fait, l'homme décide de se servir de cet état de fait pour se venger de tous ceux qui l'ont humilié dans sa vie. Voilà. Et donc, c'est beaucoup, voit dans ce film, l'envie de Romero de prendre une revanche sur ceux qui, enfant et puis plus tard, le méprisaient, parce que c'était un sous-réalisateur, un sous-auteur, voilà. D'ailleurs, c'est d'autant plus drôle que dans ce film, il y a plein de gens qui portent des noms proches de gens qu'il a côtoyés dans sa vie, ou de réalisateurs, ou de patrons de studio, ou de voilà. Et donc, on voit qu'il y a quand même la volonté un petit peu d'exorciser sa colère dans ce film-là. Et il est très très intéressant. Vraiment, ce film, moi je vous le conseille, il est très particulier, parce que faut s'accrocher, c'est un peu c'est un peu un film un peu fou, mais il est vraiment très intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, Romero décide de finir ce qu'il appelait sa saga des zombies, ou sa saga zombiesque. Parce qu'il sentait, vous savez, Romero était malade, il le savait depuis un certain nombre d'années, et il savait qu'il aurait plus beaucoup de temps pour faire des films, parce que voilà, il était atteint d'un cancer des poumons, qu'il a traîné très longtemps, en fait, voilà. Même s'il s'est battu très peu de temps avant de mourir, comme on dit, parce que ça s'est accéléré, mais il savait qu'il était atteint, donc il a décidé de finir sa saga zombiesque. Alors il a d'abord fait Le Territoire des Morts en 2005. Alors il y va pas avec le dos de la cuillère, il dénonce carrément la fracture entre les centres-villes et les banlieues aux États-Unis, c'est-à-dire les riches et les pauvres. Et il le fait de façon magnifique entre Le Territoire des Morts, le territoire des un peu plus pauvres, et une grande tour ultra-moderne et protégée où vivent tous les riches. Donc c'est très intéressant à voir, c'est vraiment bien. Et puis ce qui est marrant, c'est que les morts-vivants, ils gagnent souvent à la fin dans les films de Romero, donc c'est ça qui est cool. Voilà. Il va continuer avec Chronique des Morts-Vivants, et qui est très acide et qui lui sert en fait de défouloir sur la société américaine qui est fan de tout ce qui est mise en scène, selfie. On est en 2008, c'est le début des selfies, des je me prends en photo, de je me filme partout tout le temps. Et en fait, le film est quasiment filmé qu'avec des téléphones portables ou des caméras comme ça. Et c'est super marrant parce que les gens finissent par mourir connement parce qu'ils veulent faire un selfie avec un mort-vivant. Vous voyez, pardon, c'est assez drôle. Non mais voilà, il faut vraiment voir ce film, il est superbe parce que je trouve qu'en termes de dénonciation d'une société devenue folle à travers l'image, il est vraiment très bon. Il va finir avec Le Vestige des Morts Vivants en 2009 et là il se fait un malin plaisir de démontrer que l'entraide est le meilleur mode de survie. Et ben, bizarrement, en fait, les protagonistes du film décident de ne pas s'entraider. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Et c'est vachement bien parce qu'il le montre avec... Et là par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il va mettre beaucoup d'humour dans ce film-là. Et en fait, c'est parce que Romero avait envie... il le dit, d'essayer un film avec de l'humour parce qu'il n'en mettait pas dans beaucoup de ses films, mais pourtant il avait beaucoup d'humour lui-même. Et en fait, c'est assez déroutant parce que du coup, il y a des gags dans ce film. Mais en fait, je trouve ça en fait un film de zombies assez étrange, mais sympa, parce que ça change d'habitude, quoi. Voilà. Donc il a été très fatigué à partir de 2009-2010, donc il a décidé de ne plus faire de films parce qu'il n'arrivait plus à tenir sur 40 ou 50 jours de tournage, c'était trop long pour lui. Il va participer à quelques séries comme ça où on l'invite comme réalisateur second ou des choses comme ça sur des séries fantastiques ou même d'ailleurs des séries qui ont rien à voir puisqu'il a fait un épisode de FBI porté disparu sous un pseudo juste pour le plaisir parce qu'il aimait bien l'acteur principal. Voilà. Mais il va quand même faire une BD qui s'appelle Empire of the Dead, l'Empire des Morts. Hein, donc voilà. Et parce que pour lui, les zombies vont gagner à la fin. Et c'est ce qu'il essaye de dire dans cette BD-là, c'est que bon, bah, le jour où il y a des zombies, en fait, il n'y a plus d'humains. Un jour, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc il va décrire dans cette BD, malheureusement, il n'aura pas le temps de la finir, parce qu'il va mourir le 16 juillet 2017, comme je disais. Mais elle est plutôt intéressante. Moi, j'ai pu en lire le premier tome, et je trouvais ça plutôt pas mal, parce qu'on retrouve vraiment du Romero, l'humour noir, le cynisme, le côté un petit peu de nous montrer qu'on est vraiment très très con des fois, de ne pas faire ce qu'on devrait faire pour survivre. Voilà. Alors voilà, on voit que sa filmographie, ben pour moi, elle est beaucoup plus riche que les gens ne le pensent. Elle est bien plus politique et intéressante que ce qu'on veut bien laisser croire. Et que c'est vachement dommage, parce que ça s'est perdu, et qu'aujourd'hui, dans les films d'horreur, on a souvent que des films d'horreur. Il n'y a plus derrière de sous-texte, comme ça se faisait avant, et notamment dans les films de Romero. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va détester l'adaptation de Walking Dead, je vous le dis, parce qu'on lui a proposé, hein, les studios sont venus, on dit « Bah ouais, Romero, vous êtes l'inventeur des zombies, donc venez réaliser au moins 2 ou 3 épisodes de Walking Dead. » Il a lu le script, il l'a jeté sur la table, ça a été raconté, il l'aurait jeté sur la table, voilà, il est allé voir les producteurs, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça vous fait un soap-opéra ?» Voilà, au lieu de faire une série de zombies. Parce qu'en fait, il estime que par rapport à la BD, tout a été expurgé sur le fond politique par rapport à ce que la BD est. Et il dit, mais non, un film de zombies, ça sert à faire de la politique. Voilà, pour lui, c'est clair. C'était pour ça qu'il l'a refusé. C'est clair qu'il a réinventé le genre et on peut regretter que ce soit le seul justement à mettre beaucoup de politique dans ses films, à part peut-être des petits nouveaux qui arrivent. Il y a par exemple 28 jours plus tard qui essaye de mettre un fond politique, ou un qui vient de sortir qui s'appelle The Last Girl, qui est pas forcément à mes yeux totalement réussi, mais qui met un petit fond politique derrière tout ça, et je trouve que c'était pas mal. Voilà, et c'est peut-être un peu les derniers enfants terribles de Romero, mais on va espérer que ce soit pas les derniers à survivre, parce qu'après tout, un mec qui fait des trucs de zombies, il devrait arriver à survivre longtemps. Donc son genre, voilà.
Très longtemps.
Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire un petit salut à Georges Romero et puis un merci pour tout, et puis en espérant que ce qu'il a initié continue. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie d'aller vous balader dans la filmographie de Georges Romero.
À nous deux, on vient de pourrir des vacances de gens. On fera tout Doctor Who et tout Romero, des heures et des heures devant la télé.
Ah non, je vous rassure. Hein. Et ben ouais, ben on parle pas que des choses qui intéressent tout le monde, dans la
bien causerie, entendu,
quoi.
Que non.
C'est ça aussi qui est intéressant.
Mais vraiment, ce que j'invite vraiment, c'est à regarder pas que les films de zombies de Romero, je le redis, regardez ce qu'il a fait à côté, Night Riders notamment, ou Breather. C'est vraiment des films intéressants, parce que voilà, je trouve que c'est assez rare d'avoir des films de genre, mais qui font vraiment cogiter, quoi, et c'est cool. Voilà. Et ben voilà, j'en ai fini.
Ben c'est parfait.
Comme la causerie. Voilà.
Bonne nuit, Clara. Oui, parce que vous n'avez pas l'image, mais elle baille.
Dit-il alors qu'il a baillé 10 fois pendant la chronique.
Oh, c'est vrai.
Ah, ça balance, non, ce soir. En même temps, pour Jean-Yves, c'était une soirée terrible. Science-fiction et film de zombies, c'est trop. Ah, quoi.
Je vous aime. Et ben, nous, ben, la causerie vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais, parce
qu'on sera là, je pense, assez longtemps encore dans cet été.
Juste encore une fois, il n'y a pas de brève.
Ah oui, oui, mais c'est l'été, hein, donc c'est l'été, comme d'hab.
C'est ça.
Faites le tour des festivals, peut-être, si vous avez envie, pour voir des trucs. Non, mais je sais pas quoi dire d'autre, quoi, parce que, il y a que ça qui compte aujourd'hui. Donc.
Je ne sais pas quoi dire non plus, et voilà.
Et ne regardez pas le Tour de France, c'est Froome qui a gagné.
C'est fini.
On s'en fout. C'est ah oui, c'est ça, c'est fini, voilà, aujourd'hui.
C'est Youpi, c'est fini.
Non, je savais même pas que c'était aujourd'hui. Pardon. Oui.
Ben voilà. Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 22h23, toujours sur Radio Canyon 102.2. Et continuez d'écouter Radio Canyon, même si pas mal d'émissions sont en vacances. Il y en a aussi certaines qui continuent et qui sont certainement là tout l'été pour animer et remplir vos oreilles et vos cerveaux. En tout cas, partager plein de choses.
C'est ça. Et on va se quitter avec The Pretty Reckless et un titre qui se prêtait bien. Il s'appelle Zombie.
Voilà. Bonne semaine à tous.
Bonne ciao, semaine, des bisous. Des salut. Bisous.
Ciao. And no drive, 'cause in the end we're all alive. 2,000 years of bed awake, waiting for the day to shake. To all you who wronged me, I am a zombie. Again, again, you want me to fall on my head. Gentle burn.